une spéciale Scandinavie. Après le boom extraordinaire des polars, c'est au tour des séries télé. Borgen, The Killing et bientôt Real Humans, elles font un tabac en France. Plongeons dans les ressorts du suspense à la nordique.
Le Grand Bain, à retrouver tous les samedis sur France Inter, à partir de 16h. France Inter, la voix est libre.
Allons-y, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet et tous ses amis.
Oh, saloperie de réveil. Oh, dur ce matin. En plus, j'étais en train de faire un super rêve. Il y a Sarkozy qui était mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. J'ai même rêvé que j'organisais une fête avec mes potes, tellement ça me faisait plaisir.
Cahuzac, Sarkozy, la semaine n'est pas finie. Moi, si j'étais Christine Lagarde, je partirais pas en week-end, au cas où.
La crise, la morosité, la météo pourrie. Et aujourd'hui, Monsieur Carambar qui supprime ses blagues à l'intérieur du papier d'emballage. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Gardons le moral, chers AMG.
Faut bien avouer que d'habitude, France Info, c'est pas non plus, les informations qui se répètent à longueur de temps, ça devient lassant. Mais alors, ce matin, bizarrement, j'arrive pas à déscotcher de France Info. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse. C'est génial, non ? Poulaillers qui sont en train de... C'est scandaleux, notre ancien président est mis en examen. Ah putain, ça fait tellement plaisir que limite je m'en contenterai. Avec une petite dose d'inigibilité quand même. Allez, pas la tôle, mais une petite dose d'inigibilité de 40 ans. C'était Guillaume, de Toulouse.
Yes, hello. It's a message for Julian Assange. We support you, we think about you. We thank you for all your work you've done, and I hope you will be free, because we need a person like you. For me, you are the Nobel Prize of the peace, of the truth. Thank you very much, Mr. Assange.
Oui, oui, Daniel, cela s'appelle être enfermé dehors. Voilà, jusqu'à quand? Ben, j'espère qu'on sera suffisamment courageux pour trouver des solutions. En tout cas, merci encore pour cette émission. Allez, passez une bonne journée, bon courage. Salut.
Merci pour ces messages. On continue aujourd'hui, non pas avec Julian Assange, mais avec les idées soulevées dans le livre qu'il publie avec ses amis. Essentiellement l'inquiétude, la très grande inquiétude face à l'emprise d'Internet sur nos vies. Et là, aujourd'hui, on vous propose une heure avec pour devise, pour bannière. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Vous allez découvrir qui est GAFA, vous allez découvrir Axiom, par exemple. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Axiom? Non. Est-ce que vous connaissez Criteo? Non, et pourtant, Criteo, c'est en France, la start-up high-tech, formidable, avec un siège social de 10 000 mètres carrés en plein Paris. Voilà, vous allez voir que là-bas, si j'y suis, c'est pas toujours de la misère, de la pauvreté, des bidonvilles et des petits vieux lamentables. Mais non, c'est une émission jeune, dynamique, qui va de l'avant et qui va vous le prouver d'ici à 16 heures. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Marlène du syndicat CGT de l'hôpital de l'Aigle. Voilà ce qui se passe chez nous, dans l'Orne. Par souci d'économie, l'hôpital public de l'Aigle prévoit la fermeture de sa maison de retraite située à Moulins-la-Marche. C'est une petite structure familiale de 26 résidents, à taille humaine, où les gens se sentent chez eux. C'est un drame humain qui génère une grande souffrance pour des personnes âgées qui vont être déracinées. Donc la CGT appelle à accompagner des familles et de résidents et des résidents eux-mêmes à une mobilisation massive vendredi 22 à partir de 18h devant la maison de retraite autour d'un barbecue pour dire non à cette fermeture et non à la rentabilité du service public.
Magali, ma chérie, tu m'amuses, pardonne-moi, mon émoi, je suis plus moi quand je te vois. Je suis pas un poète, je suis juste un peu pompette, j'aimerais tellement avec toi prendre perpète. Encore une fois, tu vas me trouver débile hein, pendant que je suis juste un peu fébrile. Ciao.
Bonjour à tous. Dans le journal L'Humanité, on apprend qu'en décembre, à Marseillan, dans l'Hérault, un homme est retrouvé mort chez lui d'hypothermie. Faute d'avoir pu payer ses factures EDF, il venait de se faire couper l'électricité. Les pouvoirs publics ne peuvent pas supprimer la misère, mais ils peuvent supprimer les miséreux.
En plus du fichier bas élève, le deuxième pilier du fichage de l'enfance passe maintenant par le livret personnel de compétences, qui est la déclinaison sous forme numérique en France de l'Europass, voulu par le patronat européen. L'éducation nationale n'ignorera plus rien de l'enfant, l'employeur n'ignorera plus rien du salarié. Bas élève, livret personnel de compétences et Europass constituent une violation programmée de la vie privée, car ces données ne seront plus jamais effacées. Le fichage des enfants s'est livré à un état des informations personnelles qui jusque-là ne sortaient pas de l'école, ce qui équivaut, pour les directeurs d'école qui sont à la manœuvre, à trahir les enfants et leurs parents. France Inter demande « Quel héritage veut-on transmettre à la génération suivante ?» Eh bien, forger des êtres humains capables de coopération et de créativité, pas des individus standardisés, uniquement formatés pour exécuter des procédures normalisées répondant aux besoins du marché. Les enfants depuis la maternelle et les jeunes jusqu'à l'université ne doivent pas être immatriculés et marqués à vie. Anne-Marie, directrice d'école à la retraite.
On enregistre en fait tout ce qui est historique de navigation. On a toutes sortes de données et on les recoupe.
Qu'est-ce qu'ils regardent? Sur quoi ils cliquent? Qu'est-ce qu'ils achètent? Combien de fois ils ont vu ce produit dans les dernières 24 heures, etc., etc.
C'est ce qu'on appelle la data.
Data, ça veut dire données.
Données, voilà.
Nous collectons des données sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, la structure du foyer, la présence d'enfants, l'âge des enfants.
Donc vous définissez des sociotypes.
Okay. Exactement, c'est un sociotype.
Donc des données sociodémographiques, géolocalisées, donc...
Savoir où la personne va se trouver.
Exactement, donc puisqu'on peut aller jusqu'au numéro de la rue. Cette data, elle peut être utilisée en fait dans à peu près tout. L'objectif à terme, c'est bien sûr de, pour une publicité, un clic, une vente. Après, bon, ça c'est dans le meilleur des mondes.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Gaylor Van Vimerch. Si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Flight number 2, arriving from...
Nous voilà dans le quartier de l'Opéra, à Paris, dans le 9e arrondissement. Ce quartier que certains appellent déjà la Silicon Valley à la française, en tout cas la Silicon Valley de Paris, puisque on trouve dans ce quartier, eh bien depuis 4-5 ans, de plus en plus de start-up, high-tech, nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va se rendre dans l'une d'entre elles, qui s'appelle Criteo, une société qui fait de l'e-marketing, de la publicité sur Internet, et qui est la start-up la plus performante d'Europe. Écoutez bien, aujourd'hui, Criteo, c'est une croissance de plus 200 000% en 7 ans, depuis 2006, et un chiffre d'affaires annuel de 200 millions d'euros. Là, on est dans un hall d'accueil absolument magnifique. Rarement vu ça, c'est grand hall d'accueil avec des colonnades très 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 modernes, une lumière un petit peu tamisée, des canapés en cuir beige, vraiment un design incroyable.
AD, réseau de garage et carrosserie automobile, toutes marques.
Réussir, cuisiner avec la sauce soja qui compte.
Sucre d'Adi,
c'est Hélène, le cuisinier responsable. Moutonner, assaisonner. Asperger.
AD, réseau de garage et carrosserie automobile.
Ça vous fait envie, hein? Formidable, non? 10 000 mètres carrés en plein Paris. 200 000% d'augmentation du chiffre d'affaires. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal quand même pour une entreprise française. On va voir des entreprises beaucoup plus importantes, entreprises américaines, beaucoup plus importantes, mais avouez quand même que, voilà, c'est pas la crise pour tout le monde, c'est pas toujours, voilà, les misérables, là, il y en a un, oh, qui épluche les oignons et l'autre qui pleure. Non, non, non. Là-bas, si j'y suis aujourd'hui, est tout à fait dynamique. Dynamique avec le e-marketing. Le e-marketing, voilà l'avenir. C'est l'or noir du 21e siècle qui va couler dans cette heure de là-bas, si j'y suis. Tondre les moutons et leur vendre la laine. Ça pourrait être la devise du e-marketing. Telle est, en tous les cas, la devise de GAFA. GAFA, au total, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est plus de 800 milliards cumulés en bourse. Et GAFA, ce monstre qui s'appelle GAFA, c'est la bande des quatre. Google, Apple, Facebook, Amazon. Leur boulot à ces quatre-là, eh bien, butiner les informations numériques laissées dans notre sillage pour en faire un miel vendu aux annonceurs. Voilà, c'est pas compliqué, chaque jour, à chaque instant, avec votre carte bleue, avec votre iPhone, avec votre ordinateur, etc. Vous savez tout ça très bien. Eh bien, vous laissez, nous laissons, moi aussi, bien sûr, des petits cailloux, comme ça, des petits cailloux un petit peu partout, et puis on va, on vient, on va sur un site social, sur peu importe, tout, on cherche, on achète, et toutes ces petites actions sont mémorisées, sont scrutées, sont regroupées, sont analysées pour arriver à nous vendre au fond ce que nous avons donné gratuitement. C'est un cas assez extraordinaire. C'est pas seulement les moutons qui se laissent tondre et dont à qui on va vendre leur propre laine, c'est les moutons qui donnent leur laine pour qu'on leur vende. Ensuite, ça s'appelle data to value. Axiom, j'en ai déjà parlé, géant de la publicité ciblée et de la gestion des bases de données. On va y faire un tour. Là déjà, on est chez Criteo, au centre, au cœur même de Paris, je le disais. Et aujourd'hui, jamais, jamais le marketing n'a été aussi intrusif et manipulateur. Le système de surveillance, le système de contrôle qui s'installe, qui s'est installé aujourd'hui dans nos vies, jamais on a eu un système aussi parfait. Bien sûr que tous les pouvoirs ont toujours installé des systèmes de contrôle pour contrôler la population à son insu ou pas, mais jamais ça n'aurait été aussi parfait, et surtout jamais avec notre propre collaboration cool. Ce que je vous dis là, on le sait. On le sait, on s'en méfie de plus en plus. C'est une question qui se pose de plus en plus à chacun, chaque jour. Ce qui est étonnant, c'est que plus ce phénomène se développe, plus ce GAFA nous entoure, plus on ne fait rien. Il semblerait qu'on soit tout à fait tétanisé, paralysé. On a présenté cette émission, par exemple, tout à l'heure, sur Facebook, et pendant une heure, on va critiquer, entre autres, Facebook. Cette contradiction, cette tension, ben, c'est la nôtre, aussi, à la base, j'y suis, qui sommes pourtant si malins, c'est la vôtre aussi, j'en suis sûr. Voilà des éléments de réflexion et de découverte, quand même, pour certains ou certaines d'entre nous, jusqu'à 16 heures, avec Gaylord Van Vimerche. Si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Sur mon blog, je suis en solde. Et pourtant, sur la toile, je suis top. J'ai le concept Camini entre rappeur et ragard, requester, Veracli, je suis à vendre. Moi et mes lunettes Gucci, je suis à vendre. À 50 centimes par hit dans mon clip. J'ai la dernière Opel Tigra, Dolizy, Mitiscra, du Tuning Club Berquois. Ouais, mais je suis un vrai dandy, moi. Le rebelle. La mèche du succès, du temps stretch, le Versailles bon qui fait. Toi, toi là-bas qui que tu sois, achète. Moi je suis vraiment prêt à tout pour ça. Quoi que tu fasses de moi, variète, rap, rock, cinéma. S'il te plaît, achète-moi. Je peux avoir une crête sur la tête, un slim, un string. Ou alors la boule à Z, un grill, un bling. Je peux dire que je suis mal et pleurer, aïe aïe aïe. Ou bien représenter le ghetto gueule et yo yo yo. Je suis prêt à tout pour passer sur le petit écran, vers la météo ou le
cadeau. Tout ce que tu veux, tant t'as des euros. De quoi gonfler mon ego. J'ai plus vraiment quoi faire de ma peau. Là,
je suis à fond.
Moi, mon style et mon outil.
À fond.
Sur mon blog ou sur mon site.
À fond.
Pour du blick ou pour du fric.
Haché.
Je suis à fond.
Ok, je vais reconfigurer mon cerveau en mode humain normal.
Ça va être difficile.
Donc, je suis Julien Simon, je suis vice-président engineering de Criteo.
Là, on est chez vous, dans vos locaux, quartier de l'Opéra. C'est relativement grand, les locaux sont tout neufs. Et puis, j'ai vu, tout le monde était derrière son ordinateur, avec le nom en fait, de la personne, Julien Simon, sur votre poste. C'est ça, c'est un open space.
Oui, on a un grand open space qui est occupé par les équipes recherche et développement. Donc là, juste devant nous, on a une partie de l'équipe qui travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire les équipements informatiques, les serveurs, le réseau.
Ici, là, par exemple, moi, je vois plein de graphiques sur les écrans. Ça représente quoi ? Vous avez dans le monde, en fait, des data centers, donc des centres de données qui répertorient un petit peu tout, on va dire, les utilisateurs d'Internet, etc., puisque vous faites de la publicité en ligne.
Exactement. On travaille dans le monde de la publicité en ligne et on est présent dans 35 pays, plus de 35 pays. On a donc effectivement des data centers un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Un data center, c'est un local technique qui va héberger les équipements réseau, les bases de données qui vont nous permettre donc de livrer des bannières
publicitaires.
Aux bannières publicitaires, tout à fait, aux utilisateurs d'Internet un peu partout dans le monde.
Alors ces courbes qu'on voit là sur les écrans d'un petit peu tout le monde, il y a aussi des grands écrans comme dans une salle de contrôle là, avec des graphiques, le drapeau américain, le drapeau français, le drapeau belge, japonais, on est connecté, c'est la bourse. Alors,
exactement, donc c'est un peu la tour de contrôle effectivement, il y a des grandes délais, des grands écrans, des graphes un peu ésotériques dans tous les sens.
Qui des frisbees de qui sont lancés.
Oui, différents objets qui volent à droite et à gauche, ça c'est pour l'ambiance. Et donc, c'est tous ces graphes, toute cette supervision, c'est ce qui nous permet de vérifier que le service fonctionne, que les performances sont bonnes. Notre métier, c'est de livrer la bonne publicité au bon utilisateur au bon moment. Pour être très concret, si vous êtes un amateur de jeux vidéo et que vous passez beaucoup de temps sur des sites e-commerce qui vendent des jeux vidéo, vous vous intéressez aux dernières consoles, vous comparez les prix, vous comparez les fonctionnalités, etc., on va détecter ce comportement et il est fort probable que lors de vos sessions de navigation sur des sites d'information, des sites sociaux, etc., vous voyez à nouveau les produits qui vous ont intéressé à l'instant T.
Alors comment vous savez par exemple que je m'intéresse aux jeux vidéo ?
Alors on le sait parce que nos clients ce sont les grands sites marchands et donc on a du code. On a sur les pages internet de ces marchands, on a un petit bout de code qui va nous envoyer quelques informations lorsque vous naviguez sur ces sites. C'est-à-dire de savoir que là, tiens, vous avez regardé telle console de jeu, ou telle paire de chaussures, ou telle cravate. Et donc, on va conserver ces informations-là, les exploiter dans tout un tas de dimensions, et en déduire que, tiens, c'est ça à l'instant T qui vous intéresse, et que si on vous repropose ces produits sur internet, ça a de bonnes chances de vous intéresser et de vous inciter à cliquer sur la bannière.
Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, là, en temps réel, le nombre de bannières publicitaires que vous êtes en train de créer à travers le monde ?
Alors, sur ce graphe-là, précisément, non, mais sur d'autres écrans, peut-être là.
Alors, on y va, je vous suis.
Donc, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on livre bien plus d'un milliard de bannières publicitaires par jour dans le monde.
Par jour ?
Par jour. Donc, dans nos 35 et quelques pays.
Un milliard ?
Plus d'un milliard, oui. Ça veut dire que, à tout instant, on a, sur la plateforme, des centaines de milliers de requêtes qui arrivent et qui doivent être stockées, traitées. Enfin, donc c'est vraiment un volume de données, un trafic réseau très important pour nous.
On va passer un sas.
Oui, on passe une porte. Voilà. Essentiellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement des internautes lorsqu'ils sont sur les sites marchands. C'est vraiment la clé de voûte du système.
Alors, comment les gens consomment, c'est ça ?
Voilà, c'est qu'est-ce qu'ils regardent, sur quoi ils cliquent, qu'est-ce qu'ils achètent. Combien de fois ils ont vu ce produit dans les dernières 24 heures, etc., etc.
Donc ça va être par exemple les goûts et les couleurs de chacun, de moi quand je vais me connecter, quand je vais regarder des sites de vente.
Oui, c'est ça, c'est qu'on va regarder ces données-là, on va les croiser entre guillemets avec votre comportement également quand vous n'êtes pas sur un site marchand. Et en croisant tout ça, on apprend à comprendre comment tel ou tel utilisateur se comporte, ce qu'il a envie de voir, pas
c'est
de
ça,
voir.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est de l'analyse comportementale du consommateur.
C'est ça.
AD, réseau de garage et carrosserie automobile, toute marque. AD, réseau de... AD.
Spot promotionnel de l'entreprise Criteo.
Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qui te fait kiffer chez Criteo? C'est juste une putain de belle plateforme web.
Les gros geeks.
Pourquoi c'est cool de bosser chez Criteo? Parce qu'on est avec des gens super bien.
Parce qu'on est, on a des bons bureaux, les gens sont sympas. Parce qu'on peut venir habiller en short.
Parce qu'on a un chef génial.
C'est quoi l'innovation de demain?
Alors déjà, demain c'est samedi.
Ouais, c'est le prédicteur.
Le grand prédicteur.
Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le saurez bientôt.
Si tu devais associer le C de Criteo à un adjectif, ça serait lequel?
Un adjectif?
Cool.
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 Donc je m'appelle Pascal Gauthier, je suis le Chief Operating Officer de Criteo. En français, c'est directeur général adjoint. On a été classé la start-up qui a grandi le plus vite sur les 5 dernières années avec 200 000% de croissance. Donc ça veut dire pour nous qu'on est passé en 5 ans d'une vingtaine d'employés à 700 employés, d'un pays à 35 pays sur lesquels on livre de la publicité. Donc en fait aujourd'hui on a une présence qui est vraiment mondiale. On prend toutes les données anonymes que les utilisateurs laissent sur Internet ou en tout cas sur les sites annonceurs avec lesquels nous travaillons et on utilise ces données pour resservir de la publicité qui sera la publicité la plus pertinente possible en fait. La crise finalement nous allait bien puisqu'on a proposé un modèle publicitaire à la performance. Donc justement, en période de crise, les annonceurs vont aller chercher ce type de modèle publicitaire. Plutôt que de dépenser sans savoir ce que ça leur apporte, ils vont dépenser en connaissant leur retour sur investissement. Et on est toujours en période de crise, donc c'est pour ça que l'activité va toujours bien.
Alors expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je me balade sur Internet, je parcours des sites. Quelles sont, vous, les informations que vous avez sur moi ?
Donc effectivement, vous vous promenez sur Internet, vous laissez des traces. On peut avoir un ensemble de données, effectivement, entre les produits qu'ils ont vus. On essaie de développer des données aussi, savoir quel est votre sexe, par exemple, hein, pour vous proposer le meilleur produit. On essaie de récupérer toutes les données qui sont importantes pour mieux comprendre l'intention de l'utilisateur et son comportement. Et finalement, contrairement à ce qu'on pense, parce que tout le monde a un petit peu peur du Big Brother, on utilise ces données que sur un laps de temps qui est très court et on les conserve que sur un laps de temps qui est très court finalement, puisque passer 10 jours, 20 jours, 30 jours, elles n'ont plus aucun intérêt, quoi.
J'allais vous dire, nous, quand on navigue sur Internet, le quidam non initié n'est pas forcément au courant que tous ces faits et gestes sur Internet peuvent lui servir à être ciblé avec des publicités.
Il n'est pas forcément au courant, mais nous, on fait tout pour qu'il le soit. Donc sur la publicité, vous avez un endroit sur lequel vous pouvez cliquer, qui vous ramène sur une page, qui vous explique ce qu'on fait. Et comment ensuite on peut bloquer les publicités Criteo si on a décidé de le faire. Notre mission, c'est quand même de livrer de la publicité qui soit plus intéressante pour le consommateur. Et ça, c'est aussi un point important.
Ah, c'est ça. Vous dites, au lieu de recevoir la publicité qui ne nous intéresse pas, qui ne va pas intéresser le consommateur, on livre de la publicité qui potentiellement peut l'intéresser pour que ce soit moins nuisance, en fait.
Oui, ouais, parce que la publicité qui est ciblée exactement sur vos goûts et du coup qui peut vous aider peut-être à gagner du temps, un pense-bête, quelque chose qui a de la valeur ajoutée pour vous dans la journée, bah voilà, c'est ce type de publicité qu'on essaie de servir.
Internet est quelque chose de gratuit, c'est-à-dire que moi je vais naviguer sur Internet, c'est gratuit, j'ai pas à payer pour accéder à ces services, aux moteurs de recherche. Mais justement, cette gratuité m'est offerte parce que c'est moi-même, grâce à la rémunération de la publicité, qui vais générer des revenus, c'est-à-dire que je suis moi-même le produit.
Ouais, exactement, bah, c'est le pacte en fait, tacite qui existe entre le média et le consommateur. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a un énorme volume de contenu et de services qui est disponible sur Internet de manière complètement gratuite parce qu'en en fait, il est payé de manière directe ou indirecte d'ailleurs par le consommateur.
Parce qu'on a beaucoup entendu justement que il y avait sur la protection des données personnelles des bases de données énormes, une compilation comme ça d'informations dans des data centers, c'est un petit peu le Big Brother dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ça se fait en fait? Est-ce qu'il y a des sociétés qui vont comme ça stocker de la donnée sur les utilisateurs, sur les internautes?
De la donnée, oui, de la donnée personnelle, non. Voilà, c'est ça la différence. Et quand je parlais de Big Brother tout à l'heure, c'était pour dire que justement, ce n'était pas Big Brother et qu'on n'était pas Big Brother, puisque Big Brother, c'est la persécution des gens. Hein. Donc nous, on n'est pas du tout là pour persécuter les gens, on est là au contraire pour leur apporter un service de meilleure qualité et leur permettre de continuer d'accéder à leur contenu et leur service gratuitement, et le plus possible de contenu et de service gratuitement. Et ce qu'on ne souhaite pas, c'est que le consommateur se sente piégé. Il n'est absolument pas piégé. Sur Internet, il est dans un espace de liberté totale. Je pense que c'est une liberté qui est nouvelle, et le consommateur, pour une fois, a le choix. Et donc, on est dans un modèle vraiment qui est très vertueux. Et pour une fois, dans ma vie, j'ai le choix d'être exposé à la publicité ou pas.
Ouais. Ça, il faudrait quand même en discuter. C'est ce qu'on va faire avec Jacques Hainaut, qui est journaliste et spécialiste des nouvelles technologies, de l'information et de l'impact de ces nouvelles technologies sur nos vies privées. On vient de le dire, et ce jeune homme extrêmement compétent vient de le confirmer. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Il y a quelques années, on braillait « Le monde n'est pas une marchandise ». Maintenant, c'est « Tout le monde est une marchandise ». C'est-à-dire que nous sommes devenus une marchandise, nous sommes devenus le produit. Récemment, on était très choqués en apprenant qu'en Espagne, une dame qui était dans la difficulté était prête à vendre un de ses reins, ou sa cornée, ou des parties de son corps, comme ça. Alors on dirait, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Elle vendait des parties d'elle-même, elle ne se vendait pas tout entière. Or, aujourd'hui, ces techniques, ces nouvelles techniques de marketing nous privent entièrement de notre intimité. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus d'intimité. Les moindres recoins de votre intimité, de votre âme, de vos secrets, de votre sexualité, et de vos rêves bientôt, sont observés, scrutés à la seconde près, en temps réel, comme on dit, par ces entreprises qui fleurissent et qui s'étendent à travers le monde. Le point de vue de Jacques Hainaut.
On parle de l'or noir, une nouvelle or noir qui est l'information, qui sont les données personnelles. Pourquoi ? Parce que la plupart des sites internet sont gratuits. Google, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Comment est-ce que ces entreprises gagnent de l'argent ? C'est leur matière première. S'ils n'ont pas de données personnelles pour nous envoyer des publicités, ils ne peuvent pas gagner de l'argent.
Donc la marchandise, en fait, c'est nous, voilà. Internautes.
Quand le service est gratuit, la véritable marchandise, c'est nous. Donc, ils ont besoin d'avoir un maximum d'informations sur nous pour pouvoir nous envoyer cette publicité ciblée. Et donc, c'est bien pour ça qu'on dit que les données personnelles, l'information, c'est le nouvel or noir, la nouvelle matière première de la e-économie.
Juste un chiffre à ce propos, c'est dans un papier qui est paru il n'y a pas très longtemps, dans un journal sérieux, hein, Les Échos, qui dit justement à propos de ces données personnelles que ces données représentent 315 milliards d'euros dans l'économie européenne en 2011 et qu'en 2020, l'horizon 2020, ça représentera 1000 milliards d'euros, soit 8% du PIB total européen. Donc on s'aperçoit vraiment que c'est un nouvel Eldorado pour des grandes compagnies commerciales.
On estime que chaque année, l'humanité crée sous forme numérique une quantité d'informations qui est l'équivalent d'une colonne de DVD qui irait de la Terre à la Lune et retour. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les traces que votre ordinateur envoie à un moteur de recherche comme Google lorsque vous faites une recherche. Donc là, par exemple, ce n'est pas Google, mais c'était AOL. Donc, j'ai fait le résumé des recherches menées par une américaine, une dame américaine qui, le 10 mars 2006, se demande si elle est enceinte. Le 6 mai 2006, elle se demande si boire du soda diet, c'est-à-dire avec de l'aspartame, c'est bon pour la santé lorsqu'on est enceinte. Le 18 mai 2006, elle se demande si elle attend des jumeaux. Le 26 mai 2006, elle cherche des renseignements sur des tests qui lui permettraient de savoir si elle attend un garçon ou une fille. Et puis malheureusement, ça se termine mal, puisque le 30 mai 2006, elle cherche des renseignements sur comment divorcer pour pas cher. Est-ce que vous vous rendez compte du degré d'indiscrétion que ces informations représentent ? Donc, comme ça, vous avez ce sont des centaines de pages d'informations qui sont archivées pendant plusieurs mois, et les moteurs de recherche ont ces informations, et ils s'en servent pour vous envoyer de la publicité ciblée.
Alors, ça veut dire, là, par exemple, qu'on a quelqu'un dont on peut connaître à peu près toute la vie. Vous parlez, Jacques Hainaut, à ce propos de double numérique, c'est-à-dire qu'on se crée, chacun, par notre fréquentation sur Internet, un espèce de double, comme ça, sans en être forcément conscient, justement.
Tout à fait. Donc, ma théorie, c'est qu'à côté de nous, se crée quelque part dans le monde, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on soit forcément conscient, un double numérique de nous-mêmes. Alors, lorsque nous inscrivons effectivement sur Facebook, nous leur donnons pas mal d'informations, une adresse email, notre identité, notre âge. On déclare aussi nos centres d'intérêt. Ça, c'est l'information que nous donnons, et nous en avons conscience. Et puis, les informations qui rentrent dans ce fameux double numérique dont je parle, c'est l'information que Facebook va glaner de façon automatique sur vous, en analysant tout ce que vous faites sur Facebook. Tout ce que vous écrivez sur Facebook, dans vos statuts, dans vos commentaires avec des amis, etc. Et donc, ils ont des algorithmes qui analysent ça en permanence et qui ensuite vous rangent en telle ou telle catégorie publicitaire. Ils vous suivent aussi à la trace en dehors de Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des millions de boutons j'aime, le fameux bouton j'aime de Facebook, qui sont sur des millions de sites internet dans le monde. Et même si vous ne cliquez pas sur le bouton j'aime qui est sur une page internet quelque part dans le monde, si votre session Facebook est ouverte dans votre navigateur et que vous utilisez ce même navigateur pour aller sur une page d'un autre site internet qui contient ces fameux boutons « j'aime », Facebook le sait, il sait quel est le contenu de cette page. Si cette page traite par exemple telle pratique sexuelle, telle drogue, c'est qu'a priori vous intéressez à ces drogues, à cette pratique sexuelle. Ces renseignements existent dans la base donnée de Facebook, et on peut très bien imaginer un État, une police ou une justice qui demande « bah tiens, j'aimerais bien avoir la liste de toutes les personnes qui ont déclaré comme centre d'intérêt sur Facebook ou qui, d'après l'algorithme de Facebook comme centre d'intérêt, telle drogue illégale ». C'est tout à fait possible.
Je vois une caméra, je me remets du mascara. Dans le métro ou dans la rue, je reste toujours bien en vue. Et même aux caméras mobiles, je donne mon meilleur profil. Jamais assez d'amis. Si tu veux me googliser, ha, facile, tout est référencé. Ma taille, mon âge, mon poids, mon sexe.
Yeah! Et même le nom de tous mes ex.
En un clic, c'est sûr, je n'ai rien à cacher.
Je n'ai rien à me reprocher. Big Brother, regarde-moi. Regarde-moi comme une star de cinéma. Regarde-moi.
Je te... Nous voilà à Levallois-Perret, dans l'ouest parisien, et aujourd'hui on n'est pas venu rencontrer les époux Balkany, mais on vient voir une entreprise qui s'appelle Axiom. C'est une entreprise américaine qui fait du e-marketing, c'est-à-dire qui vend de la publicité sur internet. Vous savez, toutes ces petites bannières que vous voyez s'afficher sur votre écran, les bannières publicitaires, eh bien c'est eux. Voilà, Axiom. Et alors, pour vous donner une idée, c'est un groupe américain qui fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui se définit elle-même comme l'une des plus grandes entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler. Bon, nous voilà dans les locaux de l'entreprise Axiom. Et on est avec vous, vous allez vous présenter, vous êtes Fatima Aliane.
Responsable de l'offre Axiom.
Donc là, on est sur le plateau de votre entreprise, donc c'est un grand open space. Donc il y a plein de gens qui sont là au téléphone, devant leur ordinateur, on va essayer de pas trop les déranger. Vous êtes un groupe américain, à ce sujet-là c'est peut-être vous, Sarah Vanke, qui allez intervenir, parce que vous êtes deux.
Alors on est un groupe qui fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires, on est à peu près 6 000 employés dans le monde. On a une représentativité aux États-Unis bien sûr, mais également des filiales en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, en Chine particulièrement.
Votre société Axiom, alors on va dire que c'est quand même un grand, c'est une société américaine, c'est une société mondiale qui officie dans le e-marketing, c'est-à-dire que vous faites de l'analyse de données sur des clients, sur des consommateurs, vous recoupez par exemple des fichiers, vous faites des bases de données énormes. Dites-vous que d'ailleurs vous êtes l'entreprise avec la plus grosse base de données au monde sur Internet.
Ce serait très prétentieux de ma part de dire qu'on est la plus grosse, néanmoins je pense qu'on fait effectivement partie des acteurs majeurs de possesseurs de bases de données. Le principe c'est de mettre à disposition des annonceurs la meilleure cible, le meilleur potentiels clients afin de rentabiliser leurs actions, d'où l'intérêt de collecter de l'information qui nous permet ensuite d'analyser les différents comportements et à chaque profil adapter la bonne offre à la bonne personne au bon moment avec le bon message.
La bonne pub en fait.
Et la bonne pub. Nous collectons des données sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, la structure du foyer, la présence d'enfants, l'âge des enfants. Et puis toute une autre partie de données qui est plutôt comportementale, c'est-à-dire qu'on va analyser les comportements d'achat, les préférences, ce qu'on appelle les appétences, donc toutes les affinités et les centres d'intérêt des différents consommateurs. Et toutes ces données vont être mises bout à bout,
croisées
complètement. Et le croisement de ces données va apporter une vision qu'on appelle 360 degrés du consommateur. On parle beaucoup de l'avantage du ciblage pour les directions marketing, mais n'oublions pas que l'internaute également a tout intérêt à être ciblé.
Ouais, cela, pourquoi ? J'allais vous demander.
Bah, cela permet d'éviter des publicités qui, pour lui, n'ont aucun intérêt, qui ne lui correspondent pas, qui vont plus l'ennuyer qu'autre chose. Donc je pense que c'est vraiment un processus gagnant-gagnant.
Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de personnes sont recensées chez vous ?
La base de données reconnue d'Axiom est plutôt une base de données qui se veut historique grâce à nos grandes enquêtes où nous collectons de l'information à des fins marketing. Et historiquement, Axiom est reconnu grâce à cette énorme mégabase. Et aujourd'hui, effectivement, nous collectons 25% des foyers français. Donc 6 millions de foyers aujourd'hui collectés grâce à notre grande enquête spéciale consommation.
Alors, qu'on se rende compte, quelles sont les données, par exemple, que vous avez sur quelqu'un ?
Le nom, le prénom, l'email quand le consommateur le donne et des données de géolocalisation pour mener des actions marketing locales. Et une donnée de profil qui est Personix, notre segmentation des foyers français.
Alors ça, Personix, c'est quoi ?
C'est tout simplement un code qui permet de dire, pour vous donner une petite idée, j'habite Paris, je suis seule, j'aime sortir, le théâtre, loisirs culturels très en affinité, les restos, grand gastronome, ben, je vais être single branché.
Donc vous définissez des sociotypes ?
Exactement, c'est un sociotype.
Certains disent que ces données sur les consommateurs, c'est un petit peu le nouvel or noir du marketing, sorte d'Eldorado comme ça.
Alors, c'est l'Eldorado aujourd'hui parce qu'on parle effectivement du phénomène intéressant, c'est le ciblage sur Internet dans un environnement où la donnée foisonne. Et l'enjeu pour les directions marketing, c'est d'identifier la donnée à valeur. La bonne donnée, la bonne affinité, le bon centre d'intérêt qui fera que les actions marketing seront rentables.
Alors, par exemple, on parle beaucoup des réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Avec qui vous travaillez, par exemple ? Est-ce que, justement, vous avez des informations, des réseaux sociaux ou...
Non. Aujourd'hui, Axiom ne se positionne pas sur l'exploitation des données des réseaux sociaux.
Pourtant, vous allez travailler avec Facebook.
Oui. Nous travaillons pour Facebook aux États-Unis. Effectivement, c'est une collaboration qui débute. Je pense qu'on va pas assez compliqué. On va peut-être pas expliquer parce que si on rentre dedans, je vais perdre tout le monde là.
On va la refaire ça aussi.
Vous voulez que je repose la question ?
On va déjà définir une trame pour la réponse.
Là, je suis sur un site de vente pour acheter des billets d'avion pour Venise. Et là, c'est beaucoup trop cher, 270 euros, ça va pas du tout. On va être sur notre site. Ah, là, c'est pas mal, c'est beaucoup moins cher, 110 euros. En plus, il y a une promotion. Bon, j'achète. Ah tiens, sur ma page Facebook, j'ai des pubs qui arrivent là. Voyager à Venise, envie de sortir, louer votre voiture pas chère. C'est quoi ça ? Trouvez votre hôtel en plein cœur de Venise. Eh bien. Et là, sur ma boîte de messagerie, il y a des pubs aussi. Bon plan à Venise, où sortir, et une pub pour des valises et un kit de voyage. Et comment ils savent tous que je vais partir à Venise ?
Revenez. Partagez. Repartez. Revenez. Revenez.
Bon, alors vous voyez, chez Axiom, n'allez pas croire que Facebook leur vend quelque chose. Hein, c'est pas du tout les intentions de Facebook. Facebook, c'est créer du lien social, de la communication. Ce que disait Mark Zuckerberg, c'est Facebook n'a pas été créé pour être une entreprise, mais pour remplir une mission sociale, rendre le monde plus ouvert et connecté. Voilà, c'est tout ce que vous allez chercher. Ah, voilà. Alors, j'en vois certains d'entre vous. Nous aussi, on vous observe là. Hein, vous êtes en train d'écouter
on vous voit là, on vous voit. Il y a dans votre transistor, il y a plein de... Si, on vous voit de partout. Et vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, mais vous vous dites, il y a des lois. Il y a sans doute des lois. Mais bien sûr qu'il y a des lois pour vous protéger. Et Axiom y a pensé. Axiom y a pensé, puisqu'à l'intérieur même de cette entreprise qui vous fait si peur, bande de petits auditeurs coincés, et on a pensé à vous. On a pensé à vous, il y a à l'intérieur même de l'entreprise votre défense, quelqu'un qui est là pour vous défendre et pour défendre vos droits.
Sarah Vanquier, je suis responsable juridique de l'entreprise. Je suis également ce qu'on appelle un correspondant informatique et liberté. Dans l'univers d'Axiom, on appelle ça un privacy officer, alors un officier de la vie privée. Je suis là pour m'assurer que tout ce qu'on fait ne porte pas atteinte aux droits des individus qui nous ont fait confiance, qui sont dans nos bases de données. Je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a une crainte des individus par rapport à leurs données et à l'exploitation qui en est faite. Aujourd'hui, chez Axiom, il y a deux choses. Il y a ce qu'on collecte par nous-mêmes et puis ensuite ce qu'on peut mutualiser avec d'autres partenaires qui ont eux-mêmes collecté des bases de données et qu'on est en droit d'exploiter parce que, effectivement, les individus ont été informés préalablement.
Ça veut dire quoi être informé, justement? Comment sur Internet?
C'est assez simple. Vous avez sur nos questionnaires papier comme sur nos questionnaires en ligne une mention d'information qui vous explique très clairement que les données qu'on collecte le sont à des fins de marketing direct, location, enrichissement de fichiers, mais également analyse interne. Et puis, vous avez une case qui vous permet, si vous la cochez, de refuser que nous exploitions ces données au bénéfice de nos partenaires commerciaux que sont nos clients. Le respect de la loi, le respect du consentement des individus, le respect d'une certaine déontologie, c'est souvent une contrainte, mais c'est également, sur le long terme, un avantage majeur, notamment dans le nombre de plaintes qu'on aura à gérer ensuite.
Du coup, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de gens qui...
Non, finalement, ça peut paraître surprenant, mais non. Des vraies plaintes avec demande d'informations complémentaires, de quoi disposez-vous sur moi, comment avez-vous eu mes données, etc., etc. C'est vraiment assez minime sur la masse d'informations qu'on peut traiter chez nous au quotidien.
Il y a des gens quand même qui ne savent pas, en fait, qui sont dans vos fichiers.
Alors, ils peuvent avoir oublié, c'est vrai, mais nous, on historise tout ça, on digitalise les dates de réponse, les dates d'envoi des questionnaires, etc., et on est capable de leur rappeler que tel jour, à telle heure, ils ont reçu un email de notre part, qu'ils ont répondu, que voilà. Il faut préalablement informer la personne qui m'a confié son adresse.
Alors, comment vous l'informez ?
Soit au moment où on collecte, effectivement, et on lui laisse une case à cocher pour dire « j'accepte que vous transfériez ». Mais il y a aussi le droit d'opposition, c'est-à-dire qu'on peut collecter des données en disant aux gens « si vous ne vous opposez pas, on pourra faire ça, ça et ça ». Et là, effectivement, ça peut parfois être noyé dans des mentions d'informations longues, écrites en tout petit, cachées sur des pages, etc. etc. Mais pas cachées volontairement, simplement parce qu'on ne va pas vous faire la liste de toutes vos conditions au moment où vous validez un billet.
Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit. On s'en aperçoit pas forcément. Des fois, notre nom peut partir sur des fichiers sans qu'on le sache.
C'est quelque chose que vous avez conscience que vous pourriez voir, mais que vous avez souvent, comme beaucoup d'entre nous, un peu la fainéantise d'aller regarder. Et la chose, c'est qu'on va, nous aussi, tirer parti de ça. C'est évident.
Une sorte de consentement involontaire.
C'est une sorte de consentement volontaire, en sachant que si on veut l'information, on sait où la trouver. Il y a des sociétés dont c'est le métier d'essayer de tirer un peu d'argent de leurs bases de données. D'ailleurs, c'est notre métier à nous de monétiser nos bases de données.
Donc vous cherchez à avoir forcément la base de données la plus grande, j'imagine.
Évidemment, la plus grande et la mieux qualifiée sur les critères qui nous intéressent, sur les profils qui nous intéressent.
Quelle est, par exemple, pour qu'on comprenne, la durée légale dans laquelle vous pouvez conserver des informations sur quelqu'un ?
Il n'y a pas de durée définie par la loi. C'est-à-dire que la loi, elle ne dit pas « vous avez le droit de les garder 5 ans ».
Vous pouvez le garder à vie.
Non, c'est pas tout à fait ça. La loi, elle dit, il faut que vous conserviez ces données le temps qui sera proportionné au but que vous poursuivez.
Et alors, aussi, une question que moi, je me pose, par exemple, si moi, j'ai besoin d'informations sur des consommateurs, est-ce que vous pouvez me les vendre ?
Si vous, vous venez me voir pour vous demander des...
J'ai besoin d'un listing, par exemple, de 200 000 personnes.
Seulement et uniquement si votre finalité, comme dirait la CNIL, c'est de faire du marketing. Parce que la raison pour laquelle on a collecté ces données auprès des individus, c'est pour faire du marketing. Et si demain, quelqu'un vient nous voir pour faire du recrutement, pour faire du recouvrement de dettes, pour faire de l'analyse de fraude, etc., on va dire non. Parce que ça, c'est interdit par la loi.
On me reprochait de ne pas vous poser la question. Moi, justement, j'ai vu qu'en 2003, Axiom USA a vendu des informations au Pentagone, à une société de l'armée américaine.
Alors, sur cette information-là, je n'ai pas d'éléments à vous fournir parce que je n'ai pas...
Vous êtes au courant, quand même ?
Non, je ne suis pas au courant parce que je n'étais pas chez Axiom à l'époque.
Il y a eu une enquête aux États-Unis ?
Probablement. Après, je ne connais pas l'historique de cet événement-là, donc je ne vais pas pouvoir me prononcer là-dessus.
Ouais, je... Vous n'êtes pas au courant, vous dites
au courant, non.
Vous ne connaissez pas cette histoire-là?
Non, vraiment pas.
Democracy Now, 19 septembre 2003.
You are listening to Democracy Now.
Vous êtes sur Democracy
Now.
The
internet magazine Wired.com is reporting that JetBlue Airways confirmed yesterday.
D'après le site Wired.com, la compagnie aérienne JetBlue a confirmé hier avoir fourni en septembre 2002 des informations sur 5 millions de passagers
to a weapons contractor for proof of
à une compagnie privée d'armement pour des tests de validation d'un projet destiné au Pentagone, mais sans aucun rapport avec la sécurité aérienne.
The contractor,
la société en question, Torch Concepts, a enrichi ces informations avec des numéros de sécurité sociale et d'autres données personnelles,
including income level,
comme le niveau de revenu.
Torch Concepts purchased matching personnel records from Axiom.
Torch Concept a racheté ces informations personnelles à la société Axiom, une des plus grandes compagnies de collecte de données. Ces informations comprenaient les revenus, les activités, le nombre d'enfants et le numéro de sécurité sociale.
Jacques Hainaut, le but de ces sociétés e-marketing, c'est bien quand même d'avoir le maximum de bases de données sur les consommateurs pour pouvoir justement faire de la publicité sur Internet. Donc c'est effectivement la question de savoir à quel moment est-ce que ces fichiers marketing peuvent justement glisser dans la sphère de l'État.
Il y a deux conceptions de la défense des données personnelles. Il y a une conception américaine, c'est dire bah, vous m'avez donné vos données personnelles, je m'engage à les protéger, mais les protéger physiquement. C'est-à-dire que je vais m'engager à ce qu'elles ne puissent pas être piratées, à ce que, voilà, il ne va pas y avoir de fuite de ces données dans le public, etc., etc. Donc c'est une protection physique. Et par contre, les Américains, ils estiment qu'une fois que vous leur avez donné vos données, vos informations personnelles, ils peuvent s'en servir comme ils veulent pour des actions commerciales. Et puis vous avez la conception européenne qui peut te dire bah non, si on confie nos données personnelles c'est uniquement pour telle utilisation et après toute autre utilisation doit faire l'objet d'un accord spécifique. Alors, c'est là où il y a la bataille, c'est que les entreprises américaines bah, disent nous avons un siège aux États-Unis, donc d'ailleurs quand vous ouvrez votre compte chez Google, etc., vous signez encore un accord avec Google Inc., donc aux États-Unis, donc vous donnez l'autorisation à Google Inc., Google des États-Unis, d'utiliser vos données. Autre problème, c'est que aux États-Unis, il y a une loi d'exception qui a été votée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. C'est la loi Patriot Act qui autorise toute agence gouvernementale qui a besoin de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à réquisitionner n'importe quel fichier dont elle estime avoir le besoin. Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, d'Axiom. Axiom France, donc, qui sont filiales d'une société américaine. Et il y a entre les États-Unis et l'Europe un accord qui a été signé qui s'appelle l'accord Safe Harbor qui permet aux sociétés américaines de rapatrier des données de leurs filiales européennes, de les rapatrier aux États-Unis. Donc tout à fait légalement, Axiom États-Unis peut rapatrier les données de sa filiale française, Axiom France, sur le territoire américain.
C'est-à-dire que nous, consommateurs français, on va se retrouver d'un coup sans le savoir dans les fichiers américains.
Voilà, on va se retrouver avec des fichiers, avec nos fichiers, nos données aux États-Unis, et là, elles peuvent être saisies, réquisitionnées par une agence de renseignement américaine dans le cadre de la loi Patriot Act. Au départ, il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence, donc normalement, nous sommes tous innocents, hein. Mais là, on est tous suspects, parce que le problème de départ, c'est au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont dit mais comment faire pour éviter que ça se reproduise? Et donc, vous avez des entreprises privées américaines, dont Axiom, aux États-Unis qui sont venus les voir en disant bah, écoutez, nous avons beaucoup d'informations sur les gens, on pourrait penser qu'on pourrait créer un énorme fichier pour essayer de voir quels sont leurs comportements et essayer de deviner dans leur comportement des signes avant-coureurs de la préparation d'attentats terroristes. Donc, ça a été quand même le début de la complicité entre les entreprises privées et puis un État, et ça fait partie d'un même mouvement de ciblage, d'essayer de nous identifier, de connaître bien nos centres d'intérêt pour, dans le cadre de la publicité sur Internet, nous envoyer une publicité comportementale ciblée qui correspond à nos centres d'intérêt, et puis dans le cas d'un État, d'essayer de voir si nous représentons un danger. Donc des fichiers qui sont au départ des fichiers commerciaux deviennent des fichiers, des auxiliaires de justice pour évaluer notre dangerosité.
Et puis le président et cofondateur du réseau social Facebook était reçu aujourd'hui à l'Élysée. Le site aurait dépassé les 600 millions d'utilisateurs.
BFM TV.
Mark Zuckerberg, dont la fortune est estimée à 7 milliards de dollars, est seulement âgé de 26 ans.
25 mai 2011.
Il est à Paris, vous le savez, pour le IG8, le premier sommet mondial des grands décideurs du web, de toutes les stars. Et pour l'occasion, il avait même revêtu un costume.
Voilà, c'était en 2011, 600 millions d'utilisateurs aujourd'hui. C'est plus d'un milliard d'utilisateurs de Facebook qui, on a compris, sait absolument tout sur nous, notre intimité. Il n'y a plus aucune espèce de secret. C'est GAFA, c'est où l'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Quand on sait de quelqu'un ce qu'il pense, ce qu'il fait, où il est, il devient extrêmement facile de l'influencer. Ça devient très facile de l'influencer pour lui faire acheter ça, ça ou ça, ou bien pour lui faire penser ce que l'on veut. Alors, paranoïa, non. Quel est le lien entre deux événements récents, l'élection du nouveau pape François et le bouquin de Julian Assange? Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est la propagande, c'est le système de propagande, c'est d'arriver à rentrer intimement dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme des gens. Ça a été la conquête, les grandes conversions. Il y avait le sabre, mais il y avait aussi le goupillon. C'est extrêmement séduisant, ces procédés pour convaincre, pour convertir les âmes et contrôler les peuples d'une certaine façon par Internet. C'est des démarches similaires. Alors, paranoïa, certainement. Complot, certainement. Il y a du complotisme dans tout ce que nous disons là, ce qui nous inquiète là. Mais pas seulement. Pour finir cette heure, on retrouve Jérémy Zimmermann de La Quadrature du Net, qu'on a trouvé en dialogue déjà hier et avant-hier avec Julian Assange, qui nous donne son point de vue sur GAFA et sur nos chances de nous protéger de ce monstre.
Personne n'imagine l'ampleur de Google aujourd'hui. L'ampleur de l'agrégat de données que représente Google. Ce que Google connaît de nous, c'est quelque chose de sans précédent. Moi, pour vous dire, j'essaye de vivre sans Google, de n'utiliser aucun service Google. Et pourtant, chaque semaine, je me retrouve avec des cookies, ces éléments d'identification qu'envoient les sites sur votre ordinateur, je me retrouve avec des cookies de Google. Donc j'essaye de vivre sans Google et j'y arrive pas, alors que j'ai quand même une certaine connaissance de la technologie et que ça correspond à une forme d'engagement politique. Et donc si un jour ces données viennent à fuiter et que chacun réalise que Google sait où vous allez, quand vous êtes réveillé ou que vous ne l'êtes pas, si vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, ou connaît votre orientation sexuelle ou votre orientation politique ou des choses comme ça, je pense que les gens prendraient peur. Mais là, il y a effectivement une vraie question.
Est-ce qu'on n'y est pas déjà ?
On y est déjà. Et cette grande question, c'est justement celle de la centralisation, et c'est celle de la confiance, c'est celle de la délégation de responsabilité. Cette espèce de délégation de confiance que les gens font à Google, Facebook ou Apple, c'est quelque chose de moi qui me terrifie, qui peut avoir des conséquences absolument phénoménales. Imaginez le jour où les États-Unis basculent, sachant que leurs services ont accès illimité, open bar, à toutes les données stockées. Enfin bon, on peut dresser nombre de scénarios absolument terrifiants à partir de tout ça. Alors je dis pas qu'on va gagner contre Google. Bon, Facebook met espoir que ça va devenir un de ces jours uncool. Plus cool, pas cool. Comme à l'époque, tout le monde était sur Friendster, et puis quelques mois après, Friendster, c'était la loose, c'était presque la honte d'être dessus. Pareil avec MySpace. Si aujourd'hui vous dites ouais, j'ai une page MySpace, tout le monde se fout de vous. Mais le point commun de tout ça, c'est la centralisation. C'est qu'on fait confiance par défaut à ces acteurs parce que le logo est joli, parce que c'est tout blanc, parce qu'ils vous renvoient une jolie image de vous-même, parce que le design est très bien fait. Mais pour autant, c'est cette centralisation de l'information et des données qui veut dire un pouvoir phénoménal. Et dans l'histoire, je crois qu'on n'a pas un seul exemple où la centralisation du pouvoir n'est pas conduite à des catastrophes. Donc la solution à ça, c'est la décentralisation des services. C'est l'utilisation des logiciels libres, c'est l'utilisation de vos propres services sur Internet. Mais tout ça, ça implique tout de même une certaine compréhension de la technologie, une certaine prise en main de la technologie. Et c'est vrai que Apple et Google vous vendent comme un argument commercial. Voilà, vous n'avez pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est la boîte noire, enfin en l'occurrence la boîte blanche, la plus pure, la plus parfaite, surtout... Ne comprenez rien, surtout ne vous posez pas de questions. Et je pense que c'est un des enjeux les plus cruciaux pour l'évolution de nos sociétés. C'est est-ce que cette compréhension de la technologie va venir d'elle-même? Est-ce que la génération qui aujourd'hui a 15 ans va de fait se poser la question « Où sont mes données ? Où est cette photo stockée physiquement ? Qu'est-ce que ça représente des données ? Qu'est-ce que l'intimité par rapport à la vie publique, etc. ?» Peut-être qu'on a là quelques générations sacrifiées qui n'ont pas peut-être les outils intellectuels, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas été confrontés aux catastrophes inévitables que sont la fuite massive de données et leur exposition au grand public ou des choses comme ça. Et est-ce que ces choses-là vont émerger d'elles-mêmes ou est-ce qu'on n'a pas tous à cœur, citoyens, une responsabilité là-dedans? Et est-ce que l'apprentissage de la technologie aujourd'hui n'est pas aussi crucial pour l'émancipation des individus que pouvait être l'apprentissage de l'écriture et de la langue il y a un siècle?
Voilà bientôt des cours d'autodéfense numérique. Il faudrait aussi aller voir du côté des capacités quand même des lois et de la CNIL à mettre de l'ordre et des barrières un peu dans tout ça. Merci à Jérémy Zimmermann, à Jacques Hainaut. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que demain, samedi à 15h, à l'appel de Americans Against the War, un rassemblement contre la guerre est prévu place Saint-Michel à Paris en solidarité avec Bradley Manning et pour la commémoration du 10e anniversaire du début de la guerre en Irak qui préoccupe beaucoup les Américains, nous moins, et on n'a pas forcément raison. Je vous conseille d'aller voir justement sur Internet la lettre d'un certain Thomas Young et de lire les papiers de Chris Hedges sur cette ou de Michael Moore également sur cet anniversaire. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique programme émission là-bas si j'y suis ou bien sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Stéphane Poitevin et Maxime Anna, Franck Adhérer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Future Vintage d'Arnaud. Luxuriante, kaléidoscopique et continuellement inventive, la tournée d'Arnaud est un ensemble de rock affûté. Arnaud, en concert dans toute la France et le 22 avril à l'Olympia à Paris. Retrouvez Arnaud dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, partenaire de Mannequin, le corps de la mode. Une exposition du musée Galliera à découvrir jusqu'au 19 mai au DOC, Cité de la mode et du design, à Paris. Anonyme ou top modèle, porte-manteau ou sexe symbole, le mannequin est un rouage essentiel du système de la mode. Avec des tirages des plus grands photographes, l'exposition interroge le statut du mannequin entre commerce et séduction. Retrouvez l'exposition Mannequin, le corps de la mode dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la basse. J'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Benjamin Netanyahou et Recep Tayyip Erdogan se sont parlé aujourd'hui au téléphone et pour la première fois, le Premier ministre israélien s'est excusé auprès d'Ankara pour la mort de Turcs lors d'un raid israélien contre une flottille turque qui voulait forcer le barrage au large de Gaza. Excuse acceptée par Recep Tayyip Erdogan qui a convenu de normaliser les relations officielles entre les deux pays, Israël et la Turquie. Un local des frères musulmans a été saccagé cet après-midi au Caire en Égypte, saccagé par un groupe d'opposants au président Morsi. Selon un porte-parole du mouvement des islamistes au pouvoir, des femmes présentes sur les lieux ont aussi été agressées. Par ailleurs, toujours au Caire, des centaines de manifestants font actuellement face à la police anti-émeute et à des membres des frères musulmans près du siège de la confrérie. Les autorités chypriotes l'assurent, une solution à la crise bancaire pourrait être annoncée dans les prochaines heures et elle sera conforme aux conditions conditions posées par l'Union européenne. De sources grecques, on apprend cet après-midi, cette fois, que la Banque du Pirée, troisième banque dans le secteur du crédit en Grèce, va acquérir les filiales chypriotes de la Cyprus Bank et de la Popular Bank, les deux banques chypriotes en difficulté. Giorgio Napolitano a visiblement fait son choix. Le président italien a convoqué pour la fin de l'après-midi le chef de la gauche italienne. Charge à Pierluigi Bersani de tenter de former probablement un nouveau gouvernement pour l'Italie. Le chef de la gauche italienne a obtenu la majorité absolue à la Chambre des députés et une majorité relative au Sénat. Les deux militaires italiens soupçonnés de meurtre d'un pêcheur sont arrivés en Inde aujourd'hui. Ils vont donc pouvoir y être jugés, mais ils ne seront pas condamnés à la peine capitale. L'Italie en a eu l'assurance auprès des autorités indiennes. Pervez Musharraf rentrera au Pakistan lui dimanche. L'ancien chef militaire et président pakistanais le confirme aujourd'hui. Il rentre dans son pays après 7 ans d'exil. Il fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt, mais il pourrait être laissé en liberté sous caution. La justice pakistanaise le lui a promis. Barack Obama lui a quitté cet après-midi Israël. Direction maintenant pour le président américain Amman en Jordanie, où il doit discuter du conflit syrien avec le roi Abdallah II. Des cannabis social clubs vont se déclarer à partir de lundi dans plusieurs préfectures de France. Il s'agit de groupements de personnes qui cultivent le cannabis et partagent leur production entre eux. Leur objectif est d'obtenir la dépénalisation du cannabis et de faire reconnaître leur activité. Dans le même temps, on apprend via nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche que 100 kilos de résine de cannabis ont été saisis ce matin à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. 3 personnes ont été interpellées. Et puis à Nanterre, 5 trafiquants de 4 cette fois ont eux été déférés devant la justice aujourd'hui. 285 kilos de cette plante d'Afrique interdite en France et aux effets euphorisants ont été saisis. D'après une source proche de l'enquête, il s'agit du principal réseau d'approvisionnement en France. L'écart entre les deux équipes était trop grand. Les basketteuses de Bourges l'avaient d'ailleurs dit contre Ekaterinbourg. Nos chances sont égales à zéro. Confirmation cet après-midi, les coéquipières de Céline Dumerc se sont inclinées devant les Russes, 73 à 44. Ekaterinbourg est donc qualifiée pour la finale de l'Euroleague de basket. Et pour les Berruyères, eh bien, l'aventure n'est pas terminée puisqu'il y a une troisième place à aller chercher dimanche et ce sera contre la perdante de l'autre demi-finale entre Fenerbahçe et les Slovaques de Košice. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Nous autres.
Moi je dis toujours la révolution, c'est pas seulement changer un système ou un régime.
Zoé Varier.
Shahinaz a été une des pionnières de la révolution égyptienne. Activiste, cyberdissidente, elle a été de tous les combats.
Là, ce qui se passait en Égypte, c'est un changement de l'esprit, de la mentalité, en fait, par rapport à la liberté des Égyptiens.
Aujourd'hui, elle dit Morsi, ça suffit.
Nous autres.
La révolution continue.
Ce soir, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure maintenant de Sylvie Chapelle et de vous parler musique. Ah bah ouais, c'est comme ça.
C'est vraiment des trucs. Je connais tous ces disques. Hein. Enfin, pas tous en fait. C'est quoi, c'est Brainy Nation, ouais, ça j'adore ce truc.
On a l'air, c'est beau, là. On peut écouter la musique classique aussi.
Moi, je vois rien. J'ai des très mauvais yeux, en plus. Super,
super.
Avec Sylvie Chapelle.
Oh, j'adore ça.
On parle musique.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter. On va parler musique et on va surtout parler vinyle. Pour la deuxième fois de l'année, nous avons donné rendez-vous à notre invité au cœur de la discothèque de Radio France. Il a choisi ses propres collectors parmi les centaines de milliers de disques qui nous entouraient. Les titres que vous entendrez aujourd'hui seront donc d'une grande qualité du point de vue du son. Après le premier radio vinyle avec Arnaud, voici celui du chanteur Raphaël.
Raphaël, c'est la première fois que vous venez dans la discothèque vinyle de Radio France. Quel rapport vous avez au vinyle ?
Je me suis remis au vinyle il y a peut-être 2 ans, 3 ans, quoi. Ma femme m'a offert une platine pour mon anniversaire il y a 3 ans et j'ai acheté quelques disques après.
Votre dernier album, Super Walter, est sorti
en vinyle, ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est vous qui avez demandé ?
Ouais, ouais.
Pourquoi ?
Ouais, mais alors, parce que je trouve ça... Man, j'écoute plus de CD.
Plus du tout.
Non, plus du tout. J'ai des vinyles. Mais pas tant que ça, j'en ai 40. Beaucoup moins, qui sait, quoi.
C'était pour la postérité, ce vinyle, ou pour...
Non, c'est que maintenant, vraiment, je suis...
Pour offrir ça aux auditeurs.
Revenu au son, parce qu'il y a quand même un, un son, j'entendais, je crois que c'était Nalian qui parle de ça, ça a l'air d'être son cheval de bataille et tout. Il explique à quel point on est ému par un vinyle alors qu'on l'est pas par la musique numérique.
L'objet aussi.
Oui, et même le son, quoi, que ça procure une émotion différente. C'est vrai que ça procure une émotion, j'arrive pas à savoir quoi, comment, mais ça vous accroche ou ça vous touche. Il y a un truc émotionnel qui se passe, ça doit être une histoire de fréquence, j'imagine. C'est pas magique, hein, mais il y a beaucoup plus de fréquence que dans un truc qui est compressé, qui fait 2 gigas, 2 mégas, je sais pas quoi, un truc tout petit. Quoi.
Avant de commencer, je voudrais qu'on évoque quelques instants cet album.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait à votre voix ?
Ma voix, j'ai rien fait à ma voix.
Elle est différente des autres albums ?
Je vieillis, alors peut-être j'ai la voix qui change parce que je vieillis.
C'est l'écriture aussi qui a fait que votre voix était un peu différente ?
C'est l'écriture, il y a aussi le fait qu'au début j'ai commencé, vraiment je faisais des répètes avec des groupes. Et quand on répète avec un groupe, qu'on a une sono pourrie, on est obligé de gueuler quoi. Et si on gueule pas, on vous entend pas, ça sert à rien. Et même quand on joue dans des petites salles, dans des clubs, quoi, on peut pas chanter comme je chante sur ce disque, c'est impossible quoi. Il faut vraiment passer au-dessus de la batterie, passer au-dessus des guitares et tout ça. Puis en plus, ça a été fait dans l'intimité, c'était fait à la maison, fallait parfois pas réveiller le petit qui dormait en dessous, donc chanter bas. Puis j'aime bien entendre une voix grave en ce moment, mais peut-être que... Ou très aiguë, il y a des fois je chante très aiguë sur ce disque, mais j'ai pas trop chanté dans les médiums, quoi.
Je traîne mes semelles sur le trottoir d'en face. Je te retourne à droite et je te frôle. T'as ton blouse noire sur les épaules. Comme un inconnu dans la glace, je plonge dans le métro, les murs de tôle. La ligne 9 sous ta frange, ça fait drôle. Peut-être que je suis bizarre, peut-être qu'il est un peu tard. Et si j'étais bizarre? Du vent dans les branches, du chagrin mystérieux et des taxis fous. J'oserais jamais te parler, je m'en fous. Comme un chien perdu, un peu sérieux, je traîne mes semelles derrière mes verres bleus. J'en gris une sac à dos, je suis fiévreux. Peut-être que je suis bizarre, peut-être qu'il est un peu tard. Et si j'étais bizarre? Peut-être qu'il est un peu tard. Mais je traîne dans les rues de la mode.